Ursula dut fournir un gros effort pour respecter sa promesse de mourir quand il aurait cessé de pleuvoir. Ces brefs éclairs de lucidité, qui étaient demeurés si rares durant la pluie, se firent plus fréquents à partir du mois d'août, lorsque se mit à souffler le vent sec qui étouffait les rosiers cramoisis et pétrifiait les bourbiers, et finit par répandre sur Macondo cette brûlante poussière qui devait recouvrir à jamais les toits de zinc oxydé et les amandiers centenaires. En découvrant qu'elle avait servi de jouet aux enfants pendant plus de 3 ans, Ursula fut si peinée qu'elle en pleura. Elle lava son visage peinturluré, se débarrassa des bandes d'étoffes multicolores dont elle était coiffée, des lézards de muraille et des crapauds desséchés, ainsi que des chapelets et des anciens colliers arabes qu'on lui avait accrochés sur tout le corps. Et pour la première fois depuis la mort d'Amaranta, elle quitta son lit sans le secours de personne pour se réincorporer à la vie familiale. La vaillance de son cœur invincible la guidait dans les ténèbres. Ceux qui remarquèrent ses faux pas, ou qu'elle heurta de son bras archangélique toujours levé à hauteur d'yeux, pensèrent qu'elle avait bien des ennuis avec son corps, mais il ne leur vint pas encore à l'idée qu'elle était aveugle. Elle n'avait nul besoin d'y voir pour se rendre compte que les corbeilles de fleurs, cultivées avec tant de soin depuis la première reconstruction, avaient été massacrées par la pluie et anéanties par les excavations d'Aureliano le Second, et que les murs et le sol cimenté étaient tous lézardés, les meubles branlants et délavés, les portes sorties de l'orgon, et la famille elle-même menacée par un esprit de résignation et d'accablement qui eût été inconcevable en son temps. Se déplaçant à tâtons à travers les chambres vides, elle percevait le crépitement continu des termites taraudant dans le bois, et le bruit de ciseaux des mites dans les armoires, et le bacchanal dévastateur des fourmis rouges géantes qui avaient proliféré pendant le déluge et sapaient à présent les fondations de la maison. Un jour, elle ouvrit la malle où étaient rangés les vêtements des saints et dut appeler Sainte Sophie de la Piété à son secours pour l'aider à se débarrasser des cafards qui en avaient jailli et qui avaient déjà réduit ses vêtements en poussière.
« On ne peut pas vivre dans un tel laisser-aller, » disait-elle. « À ce train-là, nous finirons dévorés par toutes ces bestioles. »
Dès lors, elle n'eut plus un instant de repos. Levée bien avant l'aube, elle mobilisait toutes les énergies disponibles, même les enfants. Elle étendit au soleil les rares vêtements qui étaient encore susceptibles d'être portés, mit les cafards en fuite par des attaques surprises à l'insecticide, racla les galeries des termites dans les portes et les fenêtres et asphyxia les fourmis dans leurs trous avec de la chaux vive. Cette fièvre de restauration finit par la conduire jusqu'aux chambres oubliées. Elle fit déblayer les décombres et ôter les toiles d'araignée de la pièce où José Arcadio Buendía s'était desséché la cervelle à rechercher la pierre philosophale, rangea l'atelier d'orfèvrerie qui avait été mis sans dessus-dessous par les soldats et demanda en dernier lieu les clés de la chambre de Melquiades pour voir en quel état elle se trouvait. Fidèle à la volonté de José Arcadio le Second, qui avait défendu qu'on s'y introduisît tant que ne serait pas apparu quelque indice réel de sa mort, Sainte Sophie de la Piété eut recours à toutes sortes de subterfuges pour empêcher Ursula d'arriver à ses fins. Mais elle était si farouchement décidée à ne pas abandonner aux insectes le plus secret recoin de la maison, ou le moins utilisable, qu'elle renversa tous les obstacles en travers de son chemin et au bout de 3 jours d'obstination, obtint qu'on lui ouvrit la chambre. Elle dut se retenir au montant de la porte pour ne pas tomber, terrassée par la puanteur. Mais il ne lui fallut pas plus de 2 secondes pour se rappeler qu'on avait relégué là les 62 petits pots de chambre des pensionnaires et qu'une patrouille de soldats, une nuit, tout au début de la pluie, avait fouillé la maison en quête de José Arcadio le Second sans pouvoir mettre la main dessus.
« Dieu béni !»
s'exclama-t-elle, comme si tout lui revenait devant les yeux.
« Dire qu'on s'est employé à t'en vouloir t'inculquer les bonnes manières pour que tu finisses par vivre comme un goret !»
José Arcadio le Second continuait à relire les parchemins. Rien n'était plus discernable dans la broussaille touffue de son système pileux que ses dents hachurées de vert-de-gris et ses yeux immobiles. En reconnaissant la voix de son arrière-grand-mère, il tourna la tête vers la porte, essaya de sourire et, sans le savoir, répéta une ancienne phrase d'Ursula.
« Que voulez-vous » murmura-t-il. « Le temps passe. »« C'est un fait !» répondit Ursula. « Mais pas à ce point-là »
En disant ces mots, elle se rendit compte qu'elle était en train de lui adresser la même réplique qu'elle avait reçue du colonel Aureliano Buendía dans sa cellule de condamnés. Et une fois de plus, elle fut ébranlée par une autre preuve que le temps ne passait pas. Comme elle avait fini par l'admettre, mais tourné en rond sur lui-même. Pourtant, pas plus qu'avant, elle ne laissa à la résignation l'occasion d'en profiter. Elle gronda, rossé Arcadio le second comme si ça avait été un enfant, et insista pour qu'il se baignât, se rasât, et lui prêta main forte pour achever de restaurer la maison. À la seule idée d'abandonner la chambre qui lui avait dispensé la paix, rossé Arcadio le second fut terrorisé. Il cria qu'il n'existait pas de pouvoir humain capable de l'en faire sortir, car il ne voulait pas voir le convoi de 200 wagons chargés de morts qui, chaque jour en fin d'après-midi, quittaient Macondo à destination de la mer. « Ce sont tous ceux qui se trouvaient à la gare » hurlait-il. « Il y en a 3408 !» Ursula en vint alors seulement à comprendre qu'il était dans un monde de ténèbres plus impénétrable que le sien, aussi solitaire et fermé que celui de son arrière-grand-père. Elle le laissa dans cette chambre, mais obtint qu'elle ne fût plus fermée au cadenas, qu'on y fît le ménage chaque jour, qu'on ne conserva qu'un pot de chambre et jeta tous les autres ordures, qu'on s'arrangea pour garder José Arcadio le second aussi propre et présentable que l'avait été l'arrière-grand-père durant sa longue captivité sous le châtaignier. Au début, Fernanda ne voyait dans cet affairement qu'un accès de folie sénile et réprimait à grand-peine son exaspération. Mais vers cette époque, José Arcadio lui fit savoir depuis Rome qu'il pensait venir à Macondo avant de prononcer ses vœux perpétuels. Et cette bonne nouvelle la remplit d'un tel enthousiasme que du jour au lendemain, elle se prit à arroser les fleurs 4 fois par jour pour que la vue de la maison ne laissât pas son fils sur une mauvaise impression. Cette perspective stimulante la poussa également à hâter sa correspondance avec les médecins invisibles et à remplacer sous la véranda les pots de fougères et d'origan et les jardinières de bégonia, bien avant qu'Ursula n'eût appris que la fureur destructrice d'Aureliano le second en avait eu raison. Plus tard, elle vendit l'argenterie et acheta un service en céramique, des soupières et louches en étain et des couverts en maïchor et en appauvrit les buffets habitués à la porcelaine de la Compagnie des Indes et aux cristaux de Bohême. Ursula n'avait de cesse qu'on alla toujours plus avant. « Qu'on ouvre portes et fenêtres !» s'écriait-elle. « Qu'on prépare de la viande et du poisson, qu'on achète les plus grosses tortues qui se puissent trouver, que les étrangers viennent étendre leurs nattes dans les coins et pisser sur les rosiers, qu'ils prennent place à table et mangent autant de fois qu'ils le voudront, qu'ils rotent et dégoisent et salissent tout avec leurs bottes et qu'ils fassent de nous ce qu'il leur plaira parce que c'est la seule et unique façon de faire peur à la déchéance. » Mais ce n'était qu'une illusion bien vaine. Elle était déjà trop vieille et vivait trop au-dessus de ses forces pour renouveler le miracle des petits animaux en caramel. Et aucun de ses descendants n'avait hérité de son énergie. Par ordre de Fernanda, la maison demeura fermée. Aureliano le second, qui avait remporté ses mâles chez Petra Cotes, disposait à peine de moyens suffisants pour que sa famille ne mourût pas de faim. Grâce à la mule qu'ils avaient mise en loterie, Petra Cotes et lui avaient acheté d'autres animaux, avec lesquels ils réussirent à remettre sur pied une affaire de tombola encore précaire. Aureliano le second faisait du porte-à-porte, proposant les petits billets qu'il dessinait lui-même avec des encres de couleur pour les rendre plus attractifs, et, convaincant, sans probablement s'apercevoir que beaucoup ne lui en achetaient que par gratitude, et la plupart des gens par pitié. Cependant, même les acheteurs les plus compatissants avaient la possibilité de gagner un cochon pour 20 centavos et une vachette pour 32, et cet espoir les rendait si enthousiastes que le mardi soir, on ne pouvait tous les faire tenir dans le patio de Petra Cotes, attendant le moment où un enfant choisi au hasard tirerait de la bourse le numéro gagnant. Tout cela ne tarda pas à prendre des allures de foire hebdomadaire, car dès la fin de l'après-midi, on se mit à installer dans la cour des tables pour manger les fritures et des débits de boissons, et parmi les gens que le sort désignait, nombreux étaient ceux qui sacrifiaient sur place l'animal qu'ils avaient gagné, à condition que d'autres fournissent la musique et l'eau de vie, de sorte que, sans l'avoir voulu, Aureliano le second se reprit rapidement à jouer de l'accordéon et à participer à de modestes tournois de gloutonnerie. Ces ternes répliques des fêtes d'autrefois permirent à Aureliano le second de mesurer lui-même combien ses ardeurs étaient retombées, à quel point s'était tarie son ingéniosité de magistral bambochard. Ce n'était plus le même homme. Les 120 kilos qu'il était arrivé à peser à l'époque où l'éléphante l'avait défié s'étaient ramenés à 78. Sa figure de tortue, candide et bouffie, était devenue d'iguane, et il se sentait toujours au bord de l'ennui, de la fatigue. Pour Petra Cotes néanmoins, il ne fut jamais meilleur homme qu'alors. peut-être parce qu'elle prenait pour de l'amour la pitié qu'il lui inspirait et cet esprit de solidarité que la misère avait fait naître en eux. Le lit, privé de tout son gréement, ne fut plus un lieu de débauche, mais se convertit en refuge pour les confidences. Délivrés de leurs doubles dans les miroirs, qu'ils avaient vendus aux enchères pour acquérir des animaux à mettre en loterie, et des damas et des velours sensuels qu'avait broutés la mule, ils restaient sans dormir jusqu'à 1 heure très avancée de la nuit, dans l'innocence de 2 vieillards en éveil, mettant à profit pour faire les comptes et transvaser leurs sous le temps qu'ils dépensaient jadis à se dépenser eux-mêmes. Parfois, les premiers cocoricots les surprenaient en train de faire et de défaire les petits tas de pièces de monnaie, ôtant un peu à l'un pour en remettre à l'autre, de manière à faire face aux exigences de Fernanda avec celui-ci, et acheter avec celui-là les souliers d'Amaranta Ursula, et donner cet autre à Sainte-Sophie de la Piété qui n'avait pas étrenné de nouvelles toilettes depuis les temps héroïques. Et cet autre pour commander le cercueil au cas où Ursula viendrait à mourir. Et celui-là pour le café qui augmentait d'un centavo par livre tous les 3 mois. Et celui-ci pour le sucre qui sucrait de moins en moins. Et cet autre pour le bois qui était encore mouillé après le déluge. Et cet autre aussi pour le papier et l'encre de couleur des billets de loterie. Et ce qui restait pour tenter d'amortir la perte de la génisse d'avril dont on avait pu miraculeusement récupérer le cuir et qui avait montré les symptômes du charbon alors que tous les numéros de Tombola étaient déjà presque vendus. Il y avait une telle pureté dans la célébration de ces messes de misère que la meilleure part se trouvait toujours destinée à Fernanda. Non qu'ils le fissent jamais par remords ni par charité, mais parce que son bien-être leur importait plus que le leur. Ce qui leur arrivait, en fait, bien que ni l'un ni l'autre ne s'en rendît compte, c'était que tous deux pensaient à Fernanda comme à la fille qu'ils auraient aimée et ne purent avoir, à tel point qu'ils se résignèrent une fois à manger pendant 3 jours un brouet à la farine de maïs pour qu'elle pût acheter une nappe de Hollande. Pourtant, ils avaient beau se tuer au travail, rafler beaucoup d'argent et imaginer nombre d'expédients. Leurs anges gardiens tombaient de fatigue et s'assoupissaient, tandis qu'ils rajoutaient et retiraient les pièces de monnaie au petit tas, tâchant d'en garder au moins assez pour vivre. Dans l'insomnie où les laissaient les plus maigres bilans, ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer dans le monde pour que les bêtes ne missent plus bas avec la même frénésie que par le passé, ce qui faisait que l'argent filait entre les doigts. Pourquoi les gens qui récemment encore dilapidaient des liasses de billets de banque à bambocher considéraient qu'on leur coupait la gorge quand on leur faisait payer 12 centavos pour un gros lot de 6 poules. Aureliano le second pensait en lui-même que le mal n'était pas dans le monde, mais en quelque endroit secret du cœur mystérieux de Petrakotès, où quelque chose était advenu pendant le déluge qui avait rendu les bêtes stériles et l'argent fuyant. Intrigué par cette énigme, il voulut tellement connaître en profondeur les sentiments dont elle était animée qu'il rencontra l'amour à chercher son intérêt, tombant amoureux d'elle à force de vouloir s'en faire aimer. Petrakotès, pour sa part, l'aimait davantage à mesure qu'elle sentait croître l'affection qu'il lui portait, et c'est ainsi que, dans la plénitude de l'automne, elle se laissa reprendre par cette superstition de jeunesse qui voulait que le dénuement fût une des servitudes de l'amour. Tous deux évoquaient alors, comme autant d'obstacles, les fêtes insensées, la richesse par trop voyante et la fornication effrénée, et se lamentaient sur toute cette partie de leur vie qu'il leur avait fallu payer pour découvrir le paradis de la solitude à deux. Follement amoureux l'un de l'autre, au bout de tant d'années de complicité stérile, ils pouvaient jouir du miracle de s'aimer à table tout autant qu'au lit, et parvinrent à un tel degré de bonheur que, devenus 2 vieillards épuisés, ils continuaient encore à folâtrer comme des petits lapins et à se chamailler comme des chiens. Le rendement des tombolas ne s'améliora guère. Au début, Aureliano le second passait 3 jours par semaine dans son ancien bureau d'éleveur de bétail, dessinant billet après billet, peignant avec une certaine habileté une petite vache rouge, un petit cochon vert ou un groupe de petites poules bleues, suivant les bêtes mises en loterie, et moulant en caractère d'imprimerie bien limité le nom dont Petrakotès avait jugé bon de baptiser leur affaire, « Tombola de la divine providence ». À la longue pourtant, il se sentit si fatigué après avoir dessiné jusqu'à 2 000 billets dans la semaine qu'il fit faire des timbres en caoutchouc des animaux, du nom et des numéros, et son travail se réduisit dès lors à les humecter sur des tampons encreurs de différentes couleurs. Au cours des dernières années, ils eurent l'idée de remplacer les numéros par des devinettes, le lot étant réparti entre ceux qui trouvaient la solution. Mais ce mystère se révéla si compliqué et se prêtait à tant de contestations qu'ils durent y renoncer dès la seconde tentative.